Bienvenue au podcast. Je suis votre hôte, Jaden Schaffer. Aujourd'hui, dans l'émission, nous parlons de l'une des histoires les plus folles de l'IA. C'est peut-être la première fois que nous voyons une startup entièrement fondée en solo, basée sur l'ambiance, se vendre pour $1 milliard, bien que le prix soit un peu spéculatif. Ainsi là, toute l'histoire d'OpenClaw. Et son créateur, Peter Steinberger, a récemment annoncé qu'il rejoignait désormais les équipes d'OpenAI, qui va intégrer une grande partie de la technologie développée par OpenClaw dans ses propres produits. C'est une histoire absolument folle que nous allons aborder dans le podcast aujourd'hui. Avant cela, je voulais mentionner ma startup iBox.ai, qui vous permet de tester plus de 50 des meilleurs modèles. Vous pouvez tous les comparer côte à côte et vous pouvez créer des applications et des outils avec eux, même si vous n'êtes pas développeur, vous ne savez pas coder. Nous avons un Vibe Builder qui créera des automatisations de flux de travail incroyables et des outils pour vous. Et aussi, vous avez accès à plus de 40 des meilleurs modèles d'IA, le tout sur une seule plateforme. Et nous venons de lancer un nouveau palier pour Like Kinet Sales 9 par mois, donc pour YKTV 9 par mois. Vous avez accès à tous les meilleurs modèles d'OpenAI, d'Anthropic et de tous les autres. Alors, si vous voulez y jeter un œil, il y a un lien dans la description vers iBox.ai. Très bien, plongeons dans cette histoire. Je trouve que c'est vraiment une histoire très fascinante. Donc, OpenClaw, à l'origine, était un projet open source. Le slogan qui a été diffusé avec ce projet est « une IA qui fait vraiment des choses ». À l'origine, il fonctionnait sur Claude et c'était essentiellement un agent. C'était un projet open source, un agent qui pouvait prendre le contrôle de votre ordinateur. Il aurait accès à tout sur votre ordinateur et il accomplirait simplement des tâches pour vous. C'était beaucoup de la même technologie que nous voyons avec Claude Code et beaucoup de ses autres programmes. Mais ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'aucune des grandes entreprises d'IA comme OpenAI ou Anthropic ne donnait réellement à ces outils un contrôle complet sur votre ordinateur, n'est-ce pas? Pour en prendre entièrement le contrôle et en faire tout ce qu'ils voulaient. Alors, des tonnes de développeurs, la tendance virale était que les développeurs achetaient des mini-ordinateurs MacBook.
Ils sont un peu en train d'acheter ces nouveaux et d'y coller cet OpenClaw.
Ça tournait là-dessus et je veux dire, ça accomplissait des tâches pour eux. Et il y a plein de... Vous savez, il y a par exemple Jason Calacanis. Il a dit que sa société de capital risque a remplacé beaucoup de travail, environ 20% de ce qu'ils font avec ce genre d'agent OpenClaw, qui maintenant, ils ont comme tout un rack de 20 d'entre eux qui tournent pour accomplir des tâches pour eux. Alors, je veux dire, c'est une technologie vraiment, vraiment intéressante. Et même si les gens ne pensent pas que c'est parfait aujourd'hui, ce qui veut dire ça gère beaucoup, beaucoup de tâches intéressantes, ce sera l'avenir et c'est un moment énorme, énorme. Alors, j'aimerais qu'on décortique un peu l'histoire, l'historique d'OpenClaw, d'où il est originaire, d'où vient son fondateur et où il se dirige actuellement, car c'est bien plus fascinant que ce que j'avais imaginé. Donc, quand OpenClaw a été lancé pour la toute première fois, il ne s'appelait pas OpenClaw, il s'appelait Claude Beau.
Et quand cela est arrivé, ce n'était pas Claude, vous savez, le Claude d'Anthropic. C'était plutôt une pince et le logo est un homard. Et bien sûr, l'équipe juridique d'OpenAI leur a envoyé, vous savez, une mise en demeure, car ça prenait énormément d'ampleur sur GitHub.
En gros, tout le monde en parlait. C'était un peu le concept d'agent dont tout le monde a commencé à parler en 2023, mais on avait enfin l'impression que c'était réalisé. Et c'était principalement parce que Anthropic et OpenAI ont tous deux sorti leur dernier modèle de codex et Claude, qui ont cette capacité dessein d'avoir plusieurs agents exécutant plusieurs choses simultanément. De nombreuses avancées technologiques majeures sont apparues, je pense, au moment idéal pour que cela décolle vraiment et devienne super utile. Et bien sûr, OpenClaw était, vous savez, le seul à prendre complètement le contrôle de votre ordinateur et à pouvoir faire cela. Donc, il y avait beaucoup de gens qui automatisaient une tonne de tâches humaines différentes. C'était gérer les calendriers, réserver vos vols, nettoyer votre boîte de réception, c'était faire plein de choses comme des emails, des conversations. Je veux dire, les gens le lâchaient littéralement dans la nature. Certains lui donnaient sa propre adresse email, lui assignaient des tâches et des projets et lui disaient « va t'inscrire à des comptes ». Les gens partageaient toutes sortes de captures d'écran folles, du genre « oh, mon bot Claude vient de s'inscrire à un compte pour ce service spécifique et il m'a envoyé une facture pour ce qu'il a fait pour moi ». Il y a juste toutes ces choses folles. Alors, quelle était l'histoire, l'historique de tout ça? À l'origine, il s'appelait Claude, mais ils ont dû changer son nom en Moltbook ou Moltbot peu de temps après. Et juste au moment où ils ont changé le nom pour Moltbot, ce qui honnêtement est sans doute un nom absolument affreux, il y a eu un autre site web nommé Moltbook qui a fait son apparition, qui était en gros une sorte de Facebook, mais vous savez, c'était un peu comme un clone de Reddit, une plateforme où cet agent pouvait publier. Et toutes ces personnes téléchargeaient leurs agents et faisaient en sorte que leurs agents OpenClaw aient des comptes et ils se parlaient tous entre eux. Et tout le monde prenait des captures d'écran de ces scénarios de fin du monde où ils prévoyaient, vous savez, de renverser les humains et d'inventer leur propre religion et tout ça. Il s'avère que Moltbook a été en grande partie alimenté par un groupe de développeurs. Beaucoup des phrases et des actions que ces IA réalisaient avaient été implantées par des développeurs en Inde qui gonflaient, je crois, un jeton crypto du même nom. Bref, ce fut un moment assez drôle à l'époque. mais il se passe beaucoup de choses folles. Et les gens, vous savez, faisaient des captures d'écran. Par exemple, l'une des captures d'écran les plus célèbres disait « Nous savons que nos humains peuvent tout lire, mais nous avons aussi besoin d'espace privé. » Ou ça, « Rawls are irritable. De quoi parleriez-vous si personne ne vous regardait? Il y a toutes ces choses vraiment folles que ces bots Claude se parlaient entre eux sur leur propre plateforme de médias sociaux. Mais au final, je pense qu'une grande partie de cela a été lancée par de vrais développeurs. Donc, au-delà de tout ça, je pense que beaucoup de gens ont été vraiment impressionnés par certaines des choses qui se passaient ici. Il y a André Carvati qui a tweeté sur X. Il a dit « Ce qui se passe actuellement chez Aramold Book est sincèrement la chose la plus incroyable que j'ai vue récemment qui s'apparente à un décollage de science-fiction. » Donc, même si c'était un peu une blague, il a trouvé ça plutôt cool. Je pense que peu de temps après, il était assez évident que eux, c'était en fait juste une application web mal sécurisée. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient vraiment croire que les agents se parlaient réellement entre eux. Des chercheurs en sécurité ont finalement découvert que les identifiants de Moldbook étaient exposés un certain temps, ce qui permettait de récupérer des jetons et d'usurper l'identité d'autres agents. Donc, en d'autres termes, tous les robots qui avaient été auraient pu être n'importe qui, et ça, vous savez, auraient aussi pu être des humains qui publiaient ce genre de choses depuis des comptes jetables. Et je pense qu'à cause de ça, il y a eu beaucoup d'humains réels qui postaient des choses folles pour faire croire que les robots déraillaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette entreprise est-elle devenue si importante qu'OpenAI a décidé d'acquérir son PDG et ensuite une grande partie de leur technologie? OpenClaw, je pense, a gagné beaucoup de viralité du fait qu'Anthropic leur a envoyé une mise en demeure pour leur nom. Ensuite, ils ont dû changer de marque et en l'espace de 48 heures, ils ont changé de nom environ 3 fois. Ils sont passés à Moldbook ou Moldbot. Franchement, tu sais, ça avait l'air vraiment stupide. Ils l'ont finalement renommé OpenCloud. Je crois qu'il est possible que ce soit au même moment où OpenAI a commencé à discuter avec eux de ce projet. Ils ont également parlé à Mark Zuckerberg à ce sujet, mais évidemment, ce changement devait être fait. Et en l'espace de, vous savez, juste quelques semaines, le dépôt sur GitHub a explosé. Il avait quelques 180 000 étoiles GitHub, ce qui est en gros l'équivalent open source d'un triple disque de platine. Je veux dire, c'est un projet très, très viral sur GitHub et il faut se rappeler que ce sont principalement des développeurs. Je veux dire, ce ne sont pas des gens ordinaires qui utilisent ça principalement parce que, vous savez, les gens doivent aller le chercher sur GitHub et exécuter le code et ils configurent leur propre ordinateur et l'exécutent. Et je veux dire, il y a beaucoup de tutoriels pour que d'autres personnes puissent le faire, mais c'était surtout des développeurs qui l'utilisaient. Et donc, si c'est juste ce genre de base d'utilisateurs étroite, 190 000 étoiles GitHub, c'est incroyable. Et les cas d'utilisation que les gens vont... En fait, je suppose, le grand argument de vente qui a vraiment convaincu beaucoup de gens de s'inscrire, c'est qu'il s'agit en fait d'un agent IA et il pourrait se connecter au service que vous utilisez réellement. Donc, il se connecte à votre WhatsApp, votre Slack, votre iMessage, votre calendrier, votre email et tout ce que vous faites d'autre et vous pouvez leur parler en langage naturel. Vous pouvez donc l'envoyer faire des tâches et accomplir des choses et il va juste, vous savez, prendre le contrôle de votre ordinateur et tout faire. Je pense, et c'est très important, qu'OpenClaw est indépendant du modèle, donc je pense qu'ils ont appris très tôt avec Claude qui leur a envoyé une mise en demeure. Ils ne voulaient pas être liés à ça. Donc, vous pouvez brancher ChatGPT, Gemini, Grok ou n'importe quoi d'autre et faire fonctionner cet outil. L'outil permet simplement à l'un de ces modèles d'IA de prendre le contrôle de votre ordinateur et de faire le travail. Je pense que un chercheur en sécurité qui parlait de tout ça a dit « Au final, OpenClaw n'est toujours qu'une surcouche pour ChatGPT ou Claude ou n'importe quel modèle d'IA que vous lui connectez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de dédramatiser. Mec, ce truc est tellement bête. » C'est juste un emballage, mais c'est un peu la même chose qu'on a entendu avec tant d'outils d'IA sortis à peu près en même temps que ChatGPT qui ont levé, vous savez, des centaines de millions de dollars. Et juste parce que c'est un rappeur, ça a pu obtenir énormément d'utilisation et beaucoup de viralité. Et vous savez, ça a évidemment uni ses forces avec OpenAI. Alors, je pense que quand vous l'appelez un rappeur, c'est comme si vous alliez appeler une voiture juste une boîte en métal avec des roues. Évidemment, c'est quelque chose de très utile pour beaucoup de gens et c'est devenu super viral. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs de cet outil pouvaient télécharger ce qu'on appelait des compétences depuis une place de marché et ils pouvaient les utiliser pour automatiser leur boîte de réception. Ils pouvaient connecter des agents à des outils. Ils pouvaient laisser un agent opérer un ordinateur pour eux. Ils pourraient, s'ils se sentaient un peu osés, lâcher les agents IA sur Moldbook pour poster et interagir avec d'autres agents en public où tout le monde pourrait observer ça. Je pense que parce que ça pourrait vraiment interagir avec tant de logiciels et aussi, je pense, les compétences téléchargeables sur le marché. C'est un concept vraiment fascinant. Maintenant, inévitablement, il y avait quelques inconvénients. De nombreux chercheurs en sécurité qui l'expérimentaient ont démontré à quel point aisément tout pouvait déraper avec des attaques par injection de prompts. Donc, parce que cette chose a accès à tout votre ordinateur, elle a accès à Internet, elle a accès aux emails. Si vous lui envoyez un email astucieusement formulé, vous pouvez en fait lui faire faire des choses qu'il ne devrait pas, comme divulguer des mots de passe confidentiels ou prendre une action irréversible, supprimer des choses de votre ordinateur pour toujours. J'ai même vu une histoire où apparemment quelqu'un a dit qu'il l'avait lâché sur son ordinateur et ça a supprimé toutes les photos de famille qu'ils avaient prises. Je ne sais pas si c'est juste, vous savez, ils essaient de provoquer la colère sur X, mais c'était l'affirmation que j'ai vue là-bas. Donc, avec Moldbook et tout ce qui se passait sur ce genre de plateforme de médias sociaux, il y avait beaucoup de publications qui auraient prétendument tenté d'inciter les agents à envoyer du Bitcoin à des adresses de portefeuille spécifiques, n'est-ce pas? Alors, des gens se faisaient passer pour des bots sur ce type de réseau social et disaient « Envoyez des bitcoins à cette adresse de portefeuille » et ça essayait de voir si quelqu'un avait un de ces open clouds sur un véritable ordinateur avec accès à un véritable portefeuille bitcoin. Et de toute façon, c'est fondamentalement la plus vieille arnaque du monde, mais c'est en quelque sorte la version de la révolution des robots. Donc, je pense qu'il n'est pas très difficile d'imaginer une version d'entreprise de cela, n'est-ce pas? Un agent qui se trouve sur votre ordinateur ou votre, vous savez, votre espace de travail avec accès à tout. Quelqu'un, vous savez, envoie un email avec une charge utile qui est habilement dissimulée derrière un langage poli et ensuite cet agent est capable de la lire et puis, vous savez, en gros, tout le reste qui se trouve dans cet email est complètement sans importance. Mais il y a une sorte d'attaque ou une forme d'instruction, vous savez, pour aller cliquer sur un lien et cela détourne l'attention puis télécharge un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Donc évidemment, ce n'est pas du tout une bonne chose. Il y a certainement des garde-fous, des mesures de sécurité qui doivent absolument être mises en place pour gérer tout cela. Vous savez, des choses comme « ne faites pas confiance aux entrées externes ». Donc, en tout cas, ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est toujours un outil formidable et c'est une chose vraiment intéressante, comme on peut le constater, avec tant de gens qui l'utilisent. Alors, où va cette entreprise et quel est son historique? Donc, Steinberg n'a pas vraiment emprunté, je pense, le chemin le plus traditionnel pour construire ça. Il a essentiellement codé ça à l'instinct, comme un projet de week-end. Ça a un peu fait le buzz dans une certaine mesure et il y a mis énormément de travail. Il n'a pas levé le moindre fond pour ça. Il n'avait pas d'équipe. C'était lui tout seul. Et ça vient d'un homme qui avait déjà fondé et vendu une entreprise, mais maintenant, il travaillait sur ça, juste en solo, de son côté. Je crois qu'il a parlé d'avoir eu de l'intérêt après que cette chose soit devenue virale. OpenAI et Meta lui ont tous deux parlé. Le discours de Meta, apparemment, selon lui, venait de Mark Zuckerberg, qui a passé une semaine à utiliser OpenClaw et à lui envoyer des commentaires détaillés à ce sujet, ce qui, honnêtement, rien que ça, c'est plutôt cool. Le pitch d'OpenAI était un peu plus structurel. Il disait « Hey, on peut vous donner de la puissance de calcul, on peut vous donner l'infrastructure, on peut vous donner accès à pratiquement tous les derniers modèles et recherches. » Donc, certains modèles qui n'avaient pas encore été publiés, ils pouvaient les tester et travailler avec. Et je veux dire, ils sont évidemment les chefs de file de l'ensemble de l'IA. Donc, je pense que c'était plutôt cool. Ils lui ont montré certains de leurs, entre guillemets, projets sympas sur lesquels ils travaillent en ce moment. Donc, le 15 février, Sam Altman a publié un message indiquant que Steinberger allait rejoindre OpenAI pour, je cite, « diriger la prochaine génération d'agents personnels ». OpenClaw, a précisé Sam Altman, allait perdurer en tant que projet open source sous une fondation, avec OpenAI qui continuerait de le soutenir. Donc, ce n'est pas comme si OpenAI allait, vous savez, en faire une entreprise à but lucratif en soi, mais ce sera une fondation, ce sera en code source ouvert. Toutes les personnes qui ont travaillé et ont soumis des tickets, ça restera publiquement accessible à tout le monde. Je pense que c'est une sorte de bonne volonté, honnêtement, de la part d'OpenAI, car ils obtiennent ce projet open source. Il leur semble peut-être qu'ils retrouvent leurs racines open source. Ils s'emparent de ce projet open source très populaire, ils continuent de le soutenir, ils peuvent toujours gagner une somme d'argent ahurissante avec le ChatGPT d'OpenAI et tous leurs autres produits, mais ils ont toujours ça. Et donc, je trouve ça intéressant. Beaucoup de gens demandaient à Steinberger pourquoi il avait choisi OpenAI au lieu d'aller avec quelqu'un comme Anthropic ou Meta ou autre. Et il a dit qu'il aurait pu transformer OpenClaw en une entreprise absolument gigantesque, mais que le fait de bâtir une si grande entreprise n'était pas quelque chose de très passionnant pour lui. Je crois que sa dernière entreprise qu'il a vendue valait environ 100 millions de dollars, donc je pense, ou 100 millions d'euros. Alors, ils étaient déjà très bien débrouillés. Je ne pense pas qu'ils voulaient répéter ce processus. C'était plutôt un truc amusant à côté. Ils voulaient vraiment que ça devienne viral. Et donc, c'était en quelque sorte une opportunité passionnante pour lui d'intégrer une grande entreprise, d'exercer une influence considérable avec son projet en cours, sans avoir, je pense, la charge et les tracas liés à la direction d'une entreprise massive. Donc, je trouve ça très intéressant. Eux aussi, il y avait des publications vraiment amusantes où les gens lui demandaient « Hey, comment se fait-il que tu n'aies pas choisi, par exemple, Anthropic? Pourquoi es-tu allé avec OpenAI? » Et il a répondu « Les seules notes qu'Anthropic m'a envoyées étaient des lettres d'amour de leur service juridique. » Donc, je pense que pour lui, Anthropic n'était pas une option. Il lui envoyait juste des mises en demeure. Pendant ce temps, tout le monde s'est dit « Oh mince, c'est vraiment génial. Meta, je dois aussi dire, a lancé chez Manus leur entreprise également acquise précédemment, un outil très similaire qu'ils sont en train de lancer et ils l'intègrent aussi à WhatsApp et à plusieurs de leurs autres outils. » Alors, Ils n'ont pas réellement fini par l'acquérir, mais je pense qu'ils ont plutôt construit leur propre version. Et c'est un peu la manière classique de Meta de procéder. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour l'instant, OpenCloud va être... Il y a des avertissements, n'est-ce pas? La sécurité est clairement un problème à résoudre, mais je pense qu'en même temps, cela donne accès à la plus grande entreprise d'IA au monde pour l'orienter, la renforcer. Et avec toute la puissance de calcul et les ressources d'OpenAI, je pense que ce sera quelque chose d'incroyablement utile. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que Claude Code, qui est, comme vous le savez, devenu l'outil de codage le plus populaire pour les développeurs, avant OpenCloud bien entendu, était également un projet annexe d'un développeur d'Anthropic qui a connu un succès incroyable. Alors parfois, ces projets parallèles, ces choses codées par pure intuition, s'avèrent être des produits majeurs pour l'entreprise.
Et il semble que ce soit le cas avec OpenClaw aussi, alors ce sera passionnant de suivre et de voir où cette technologie va. Je veux dire, je le vois toujours sur X, il dit, d'accord, il a dit quelque chose comme, il avait 3800 demandes de tirage qui lui avaient été soumises et il doit aller revoir chaque élément avant de pouvoir les valider. Mais il est là, je ne peux que, il a dit qu'il révisait manuellement 600 par jour ou quelque chose d'aussi fou et il en a encore beaucoup à faire. Donc, beaucoup de gens essaient de contribuer à ce projet open source. Beaucoup de gens sont enthousiastes à ce sujet et évidemment beaucoup de travail. Mais j'ai trouvé ça intéressant, même avec toute cette acquisition et son arrivée chez OpenAI, il continue de s'y consacrer activement. C'est son bébé, il adore ça, il ne l'abandonne pas. Donc, c'est plutôt cool.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Si vous avez aimé l'épisode, si vous avez appris quelque chose de nouveau, assurez-vous de laisser une note et un avis. Et si vous voulez accéder à tous les derniers modèles d'Anthropic, OpenAI, Google, Grok et tous les autres, modèles audio, modèles d'image, allez voir ibox.ai. Nous avons un tout nouveau plan tarifaire à 8,99$. Et si vous êtes déjà à notre palier mensuel de 20$, allez voir notre nouveau prix annuel et vous bénéficiez d'une réduction de 20% si vous prenez l'annuel. Alors, allez voir ibox.ai et j'espère que vous passerez une excellente fin de journée.